Que se passera-t-il après la disparition, non seulement d'Evgeny Prigojine et de son associé Houtkine, mais la disparition programmée du fameux groupe Wagner? Qu'en est-il du nombre de milices et de la raison d'existence de ces milices privées ou de ces groupes de sécurité en Russie? On pose la question avec l'analyste et politologue Vyacheslav Avyutsky.
Le fin mot sur la première.
Le premier péché, c'est de déserter. Personne ne tombe. Personne ne bat en retraite. Personne ne se constitue prisonnier. Lors de votre entraînement, on vous parlera de deux grenades que vous devrez avoir sur vous lorsque vous vous rendez.
Il faut mettre un terme aux méfaits de la direction militaire du pays. Ils négligent la vie des soldats. Ils ont oublié le mot « justice » et nous allons la restaurer. Tous ceux qui essaieront de résister, nous les considérerons comme un danger et les détruiront immédiatement.
Le but de la marche était d'empêcher le démantèlement du groupe Wagner et de tenir pour responsables ceux qui, par leurs actions non professionnelles, ont commis un nombre considérable d'erreurs au cours de l'opération militaire spéciale.
Je ne sais pas encore exactement ce qu'il s'est passé, mais je ne suis pas surpris. Peu de choses se passent en Russie sans que Poutine n'y soit pour quelque chose.
Pratiquement rien de ce qui vient de Russie ces jours-ci n'est crédible. Nous avons vu le rapport sur l'accident d'avion qui aurait tué Evgeny Prigojine, le chef du groupe Wagner, ainsi que des membres de son entourage et des membres de l'équipage. Mais comme beaucoup d'autres choses en Russie, cette information est très difficile à vérifier. Il ne nous appartient donc pas de la commenter. Ce n'est pas à nous de vérifier sa mort présumée ni de spéculer sur les conséquences possibles.
Ils ont déjà commencé une enquête préliminaire sur cet incident. Elle sera réalisée dans son intégralité et menée à son terme. Il n'y a aucun doute ici.
En ce qui concerne cet accident d'avion, je tiens avant tout à exprimer mes sincères condoléances aux familles de tous ceux qui sont morts. C'est toujours une tragédie. Et en effet, s'il y avait les travailleurs de l'entreprise Wagner, comme le disent les premiers éléments, je voudrais mentionner que ce sont des gens qui ont apporté une contribution significative à notre cause commune de la lutte contre le régime néo-nazi en Ukraine. Nous nous en souvenons, nous le savons et nous n'oublierons jamais.
Bonsoir Vyacheslav Avyutsky.
Bonsoir.
Que le patron ou que même les patrons fondateurs du groupe Wagner, à savoir M. Prigojine d'un côté, M. Houtkine de l'autre, soit décédé, ne semble plus être un mystère maintenant, puisque manifestement on dit que les tests ADN ont parlé. Cela dit, quelle va être l'attitude de M. Poutine post-Wagner? Et est-ce qu'il y a un post-Wagner? Parce qu'on nous dit Wagner, ça peut se recréer demain avec d'autres têtes ou avec d'autres noms.
Mais en fait, la grande question qui va se poser, quel est l'avenir de Wagner, par exemple, en fait, de ceux qui en restent? Parce que, rappelons-le à nos auditeurs, qu'après le mois de juin, ce groupe qui comptait plusieurs milliers de combattants aguerris était en train d'être démantelé. Ils ont été transférés d'abord en Biélorussie, puis on a vu qu'ils ont commencé à transférer leur activité plutôt en Afrique. Et c'est précisément sur le chemin de retour, quand le chef de Wagner, Yevgeny Prigojine, revenait d'Afrique précisément, il a fait une escale à Moscou, et puis il est mort dans les conditions qu'on sait. Quelle sera l'attitude de Poutine ensuite? Mais en fait, moi je pense que la première chose qu'il va faire, il va essayer de réintégrer Wagner dans des structures de l'armée régulière. Ça, c'est quelque chose qui est très, très logique, très, très classique. En plus, il a déjà demandé aux combattants de Wagner, aux membres de cette organisation, de prêter un serment. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe. Après, j'ai une hypothèse aussi. Parce qu'en fait, globalement, Wagner n'a pas été puni pour le coup d'État qui a eu, enfin, une tentative de coup d'État, qui a eu lieu fin juin, parce qu'on sait que trois jours après, il y a eu une réunion qui a duré à peu près trois heures au Kremlin, où il y avait une trentaine de commandants de Wagner qui ont parlé avec Poutine de quelque chose. Ce qui signifie que Poutine doit gérer après Wagner. Je pense que, en fait, donc c'est cette réunion, rappelons-le, c'est très très important quand même cette réunion, parce qu'on ne sait pas de quoi on va parler. Il y a une hypothèse comme quoi, en fait, Wagner représente une partie des forces armées qui n'est pas très contente de la façon comment ce conflit se déroule. Parce qu'ils sont quand même plus proches du front. Donc il y a une sorte de fronde, voilà, qui était peut-être à basse intensité. On ne l'entend pas. Mais Wagner, en fait, a réussi à porter cette fronde à l'échelle globale. Et donc, normalement, en fait, la mort de Prigogine, le démantèlement de Wagner et sa récupération dans les forces armées, il s'agit pour Poutine de gérer à peu près, c'est mon évaluation très très personnelle, à peu près 20%, on va dire, des officiers et des soldats aujourd'hui de l'armée régulière, ils ne sont pas très contents de comment les choses se passent. Voilà, donc je pense que c'est ça ce que Poutine il va gérer actuellement. Pour le moment, en fait, la disparition de ce chef de Wagner, c'est une indication importante qui nous montre que finalement, en fait, ce Evgeny Prigogine, il était un peu de trop. Vous savez, dans la mise en scène qui était en train de se dérouler, etc., etc. Donc sa disparition, ça va dans ce sens-là et ça va continuer à peu près dans la même logique.
Oui, mais Vyacheslav Avyutsky, il y a d'une part le groupe Wagner ou les groupes Wagner avec ses commandants. On rappelle qu'aux côtés d'Evgeny Prigogine dans l'avion figurait manifestement Dmitri Outkine, qui était quand même l'un des piliers forts aussi du groupe. Mais on nous parle par exemple de Konstantin Pikhalov, qui aurait été l'un ancien bras droit de Prigogine, qui se retrouverait très actif dans le groupe Convoy. On nous parle d'autres qui ont déjà pris les commandes de Redoute. Et puis on découvre que le ministre russe de la Défense lui-même, Sergueï Choïgou, a en quelque sorte sa propre milice privée légalisée, PMC Patriote. Qu'est-ce que cela nous dit de l'état de la Russie ?
Mais en fait, je rajoute à toute cette information que vous avez évoquée, je rajoute aussi que Redoute est en train de remplacer le gouverneur en Afrique. C'est-à-dire que sur le principe en tant que tel, le démantèlement de ce groupe ne signifie pas forcément la fin du système. Ça, c'est très, très important. Après, il faut quand même rappeler que pendant la mort de Evgeny Prigogine, l'adjoint du ministre de la Défense, Shoigu, que vous avez mentionné, en fait, il était en visite officielle en Libye. Et précisément, il faisait à peu près la même chose. Il cherchait à aussi remplacer. Et en fait, globalement, l'état de la Russie aujourd'hui, c'est autre question. En fait, globalement, toute cette question-là, en fait, Wagner, normalement, c'était une structure quasi clandestine. Rappelons-le, il y a 2 ans avant le début de la guerre, le directeur de la station indépendante, Echo Moskvy, qui n'existe plus aujourd'hui, en fait, il était en justice contre Prigogine qui affirmait qu'il n'avait rien à voir avec Wagner. Et finalement, il a gagné sa cause et le directeur, Alexei Venediktov, devait payer une amende, en fait, vous savez, de dédommagement. Voilà. En fait, ce groupe, en fait, il montre une sorte de phénomène invisible qui sont en train de se propager un peu dans la société russe, en Russie en général. En fait, pourquoi on a autant de compagnies privées ? D'une manière très, très simple, parce que l'armée régulière n'est pas efficace. Donc l'armée régulière n'arrive pas à atteindre les buts qui ont été fixés. Au grand maximum, en fait, elle est capable d'être en défense. Mais on a vu qu'elle n'a pas réussi pratiquement aucune offensive assez importante. Voilà, bon, à l'exception de ce qui s'est passé dans le sud de l'Ukraine. Et donc ces groupes sont à la fois, ils sont destinés pour pallier le manque des forces réellement combattantes, performantes. Et de l'autre côté aussi, il faut quand même rappeler, en fait, ce sont aussi des structures d'affaires, sont entre guillemets des entreprises qui permettent de détourner des flux financiers qui sont aujourd'hui énormes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le budget russe finance très abondamment toutes les activités armées. Il faut quand même rappeler que tout de suite après le putsch, avec la tentative de putsch, M. Poutine, qui était très très vexé par ce qui s'est passé, il a commencé à critiquer assez violemment le groupe Wagner en disant, voilà, je vous rappelle que Wagner, c'est pas du tout en fait une unité militaire ordinaire, c'est une entreprise, et qui a donné de l'argent à cette entreprise, les contrats, c'était nous. Et après, il a sorti un chiffre assez important, je crois que c'était 100 millions de dollars, l'équivalent de ça, que l'État russe a versé à ce groupe-là pendant une année. Voilà, donc il faut savoir ça. Et la propagation, la prolifération de ces groupes, ça signifie tout simplement qu'on a certains membres de régime qui veulent profiter de cette manne qui va tomber sur la guerre Comme c'est passé déjà à l'époque de la guerre en Tchétchénie, lorsqu'il y a eu beaucoup d'argent qui était détourné dans cette période.
Est-ce qu'on peut parler d'État mafieux ? Parce qu'on a le sentiment que, à défaut, mais plusieurs oligarques pourraient donc se payer ou se payent peut-être des groupes effectivement privés de sécurité, puisque le mercenariat est officiellement interdit en Russie, mais on parle donc de groupes de sécurité privés, mais qui sont des milices. Mais quand on apprend en plus que le ministre de la Défense lui-même a sa propre milice légalisée, est-ce qu'on va finir par parler d'État mafieux ?
Mais globalement, en fait, la question que vous posez, ça correspond exactement à la vision qui était, on va dire, proposée par une historienne française, très très fine connaisseuse de l'intérieur des arcanes du pouvoir russe, qui s'appelle Françoise Thom. Donc, elle explique la Russie de Poutine, le régime de Poutine, c'est l'effet de mimicrie. En fait, vous savez, le crime organisé, la mafia, la paix, vous voulez appeler ça comme vous voulez, en fait, qui était très, très structuré à l'époque soviétique, d'accord, a été manipulé par la police, par exemple, par les organes de sécurité, qui se sont inspirés par des méthodes de la mafia dans leur perception de la vie. Et à partir de là, cette vision, on va dire, mafieuse, qui s'est propagée un peu sur le reste de l'Union soviétique à l'époque, maintenant c'est en Russie. En fait, ça veut dire quoi exactement un État mafieux ? Un État mafieux, c'est un État parallèle. C'est un État qui ne paye pas les taxes. C'est un État qui détourne de l'argent, ce qui s'est passé assez souvent. Parce que, en fait, comme disait tout le monde, dans les années 90 ou même plus tard, ce qui est important, ce n'est pas la loi, c'est se faire du pognon sur le dos de l'État. Voilà, c'était ça ce qui était important. En fait, malheureusement, en fait, aujourd'hui, la société russe vit une période de cynisme assez important, dans lequel la loi, en fait, n'est plus respectée. Donc, la constitution, elle est bafouée systématiquement, il y a plein de détournements, et tout le monde est plus ou moins impliqué. Et dans ce système-là, quand même, il faut rappeler, en fait, c'est l'étage supérieur qui tire le plus de bénéfices. Il faut quand même rappeler aussi, c'est très très intéressant, les oligarques en tant que tels, leur définition de base, ne sont pas des propriétaires réels de leurs actifs. En fait, ils sont comme si c'était des personnes auxquelles on a confié le contrôle, mais une grande partie du bénéfice de leurs empires, de leurs groupes d'affaires, est partagée avec l'élite politique qui, officiellement, n'est pas directement liée à ces activités. Donc, à la fois, vous avez tout à fait raison, il s'agit d'un État mafieux, dans le style qui s'est développé dans les années 90, même avant, d'accord. Et en même temps, donc, c'est un État qui est assez fragile, parce que si le principe de propriété privée n'est pas respecté en tant que tel, il faut quand même rappeler que depuis quelques mois, en Russie, ils ont commencé à exproprier certains actifs à des oligarques qui ont été considérés comme pas suffisamment fidèles au régime, ou par exemple la fameuse affaire de l'expropriation de Danone. Il faut quand même rappeler que Danone, qui a 13 usines en Russie, donc sa gestion a été confiée lorsqu'il était nationalisé, en fait ils disent mis sous séquestre d'une façon temporaire, a été confiée à qui ? À l'ancien ministre de la Tchétchénie, membre du clan ou de la famille Kadyrov. Ça, c'est quand même assez intéressant. Donc, regardez comment les choses se passent. D'une part, en fait, il faut quand même recompasser les efforts de Kadyrov à l'Ukraine, sa loyauté. Donc, on lui offre sur une assiette Danone tous ses actifs de Danone. D'accord ? Et de l'autre côté aussi, c'est quand même, il faut savoir. En fait, normalement, cette prise de contrôle, qui disent temporaire, entre dans une sorte de bras de fer avec l'Occident, avec les États occidentaux, qui ont imposé des sanctions contre la Russie, parce qu'il y a quand même beaucoup d'actifs russes qui sont aujourd'hui bloqués quelque part à l'étranger. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ah, écoutez, voilà, on a pris en otage Danone, voilà, et nous sommes en train de négocier avec vous, vous allez nous rendre notre argent, nos actifs, et on va vous rendre Danone, bon, la possibilité de le vendre correctement. C'est ça la logique de la Russie d'aujourd'hui.
Est-ce que, avec la mort de Prigojine, Outkine et consorts, ça signifie à nouveau un renforcement du pouvoir personnel de Vladimir Poutine, qui avait manifestement été, en tout cas médiatiquement, affaibli par la tentative de putsch et les échecs relatifs, quand même, en Ukraine? Est-ce que ça veut dire que l'on se rigidifie du côté de Moscou autour du gouvernement Poutine?
Mais Poutine, en fait, bon, l'élimination de ce personnage haut en couleur qui est Prigojine, c'est vrai que ça nous indique, ça nous donne des indices comme quoi le régime de Poutine est en train de réunir leur loyalistes autour d'eux. C'est à peu près 20% aujourd'hui de la population russe. En fait, d'après les sondages, à peu près les 20% de la population qui sont jusque-boutistes, c'est-à-dire ceux qui soutiennent très activement la guerre et qui nécessitent, qui veulent donc une campagne militaire illimitée, aller jusqu'à Lviv ou jusqu'à Kiev ou même la guerre avec l'Occident. D'accord. Et après, il y a quand même une grande partie de personnes qui sont plus ou moins passives, mais qui acceptent, qui admettent cette situation et qui ne s'opposent pas à cette situation. Donc, en fait, globalement, ce qui s'est passé, il faut quand même bien interpréter le phénomène Wagner. En fait, M. Prigojine, même après sa mort, on parle de 29% des habitants russes qui soutiennent ses actions ou ses déclarations. C'est quand même assez intéressant. Globalement, ce qui s'est passé, lorsque Yevgeny Prigojine a commencé à devenir un phénomène médiatique, il a réussi à s'adresser à une partie de l'électorat russe, du noyau dur, d'une meilleure manière que le président Vladimir Poutine lui-même. Voilà. Et donc, globalement, il s'est substitué à Vladimir Poutine avec son discours, à la fois patriote, à la fois jusque-boutiste, à la fois populiste, qui mélange des mensonges avec des vérités. Mais globalement, il a réussi à trouver cette relation de confiance. En fait, ce qui est quand même assez étonnant, en fait, les personnes les plus affectées par sa mort, ce sont des criminels qui ont été mobilisés par lui, qui ont combattu en Ukraine. Certains d'entre eux se sont fait amputer de ses membres, mais qui disent, écoutez, mais finalement, pour la première fois, en fait, on a vu quelqu'un qui nous a parlé avec beaucoup de respect. Pas quelqu'un, pas comme en tant que déchet de la société, mais quelqu'un qui nous dit « Ah, on a besoin de vous pour accomplir quelque chose qui est magnifique, extraordinaire, la reconquête des terres russes, etc. etc. » etc. Voilà, donc en fait, si on extrapole ça à une échelle, on va dire, nationale, en fait, il y a eu toute une partie de la population qui s'est reconnue un peu dans ces images, d'accord, qui a été mobilisée par M. Prigojine, ce qui gênait énormément, bien entendu, le Kremlin d'une manière générale.
Alors, Vyacheslav Avyutsky, aujourd'hui, on voit, au-delà du front et de la guerre, on voit combien Moscou essaye, à travers le Niger, à travers d'autres régions d'Afrique, de reprendre pied là où il y a des ressources, parce qu'on ne se leurre pas. Ce n'est pas le soutien au régime des pays africains qui est en cause à Moscou, c'est la richesse des territoires.
Oui, tout à fait. Et en plus, Wagner était au milieu de tout ce système assez opaque, parce qu'il s'agit de nombreux projets d'affaires qui n'ont pas été formalisés. C'est ça ce qui est, en fait, ça va poser beaucoup de problèmes. Par exemple, Wagner, avec M. Prigojine, prenait contrôle de certaines mines de diamants, par exemple, certaines mines d'or dans tel ou tel pays africain, d'accord? Et globalement, comment les choses se passaient? En fait, c'était un modèle. Ils arrivaient dans un pays où il y avait un gouvernement corrompu qui avait des problèmes d'être reconnu sur le plan international parce que c'était des putschistes, etc., etc., et qui n'avait pas non plus une force militaire pour se maintenir parce qu'ils étaient contestés par d'autres acteurs politiques dans ce pays-là. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Écoutez, venez, on n'a pas d'argent, mais prenez une mine de diamant ou une mine d'or. Là, j'ai entendu parler que, par exemple, apparemment dans un pays africain, par exemple, Prigojine, juste avant sa mort, il a obtenu des lingots d'or qui lui ont été donnés en paiement de missiles solaires qui ont été commandés par tel ou tel régime africain. Vous voyez donc comment les choses fonctionnent. Ça, c'est un aspect de la chose. Mais si on regarde sur le plan géopolitique d'une manière très, très, très claire, en fait, on comprend que, primo, M. Poutine se prépare à une guerre de très longue durée. Déjà, il a compris ça. Et pour changer le rapport de force en sa faveur, il a besoin de l'Afrique, ce qu'on appelle le Sud global. Et bien entendu, il essaye de, globalement, d'expulser la France de l'Afrique, il essaye de se tourner contre, par exemple, les anciens impérialistes. C'est quand même emblématique. Pendant sa dernière vidéo, qui était tournée apparemment sur le sol africain, M. Prigogine, il reprend les mots qu'il utilisait pendant sa marche, c'est la marche de justice sur Moscou, il dit « Nous apportons ici en Afrique de la justice, de la liberté, de l'indépendance pour lutter contre… » Bon, il ne dit pas ouvertement la France ou la Belgique en tant qu'ancienne puissance coloniale, mais globalement, en fait, il lançait une sorte d'annonce de recrutement en parlant de la justice, de l'indépendance, de l'indépendance par rapport à l'Occident, etc. Là, on va lui mettre très clair que la Russie essaie de créer son précaré en Afrique, à la fois pour changer le rapport de force d'une manière globale, mais aussi globalement de distraire l'Occident du conflit en Ukraine. Parce que, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui au Niger, par exemple, ça demande une mobilisation de ressources de la part de l'Occident pour faire face à la situation. Et ce qui permet de peut-être réduire l'attention de l'Occident par rapport à l'Ukraine, etc. C'est ça à peu près le calcul du Kremlin dans cette affaire.
Alors, un dernier point quand même pour avoir, sinon le fin mot total de l'affaire Wagner, mais en tout cas en avoir le meilleur mot. Est-ce que l'on peut imaginer que l'élimination de Prigogine, Outkine et consorts est un signal envoyé aux autres milices, ce qui serait aussi un aveu de faiblesse de la part du pouvoir, ou est-ce que on doit s'attendre peut-être dans les prochains mois à ce que d'autres milices tentent une marche vers Moscou?
Oui, quelque part, en fait, l'élimination de Wagner, ça met une sorte de point au putsch, à la tentative de putsch du mois de juin, qui ne s'est pas réellement terminée par quelque chose de concluant. Parce qu'en fait, globalement, c'est quand même assez intéressant. M. Poutine, il traite les organisations de putsch, y compris Yevgeny Prigogine, de traîtres. Et finalement, on trouve une sorte de compromis entre le Kremlin et le groupe Wagner. Et donc, tout le monde s'attendait à une sorte de démantèlement ou disparition de ce groupe-là. Parce que tout de suite après le coup d'État, la tentative de coup d'État, Wagner a perdu son financement. Puis il a perdu son armement lourd. Puis il a perdu une partie de ses membres qui ont été recrutés par l'armée régulière, etc. Globalement, c'est vrai que quand on regarde ça de l'extérieur, et notamment de l'étranger, en fait, ça nous ressemble comme une pièce de théâtre. Voilà. Et logiquement, M. Prigogine, qui s'est placé au milieu de cette pièce de théâtre, de ce drame, de cette tragédie, ou peut-être une comédie, on ne sait pas. À mon avis, il y a trois genres qui sont mélangés plus ou moins, d'accord, ou une série de télévision, d'accord. En fait, il a mal calculé ses forces. Il s'est trompé sur toute la ligne et globalement, dans le rapport de force qu'il avait avec le pouvoir qu'il a engendré, donc il a été éliminé de telle ou telle façon. Ben, je ne dis pas que c'est Poutine lui-même qui a donné l'ordre. En fait, il ne faut pas quand même oublier qu'il y a des gens qui détestent M. Prigogine, détestaient M. Prigogine peut-être même plus que M. Poutine. Hein. Voilà. Par exemple, les observateurs parlent beaucoup de M. Shoigu, parce qu'avec Shoigu et Gerasimov, il a eu des relations exécrables. N'oubliez pas non plus les Ukrainiens eux-mêmes, parce que les Ukrainiens, en fait, normalement, ils n'ont aucun sentiment tendre à son égard. En fait, ça me paraît un peu difficile d'imaginer que ce sont eux qui ont monté cette opération dans un aéroport sous contrôle officiel russe. Voilà. Mais globalement, la liste de personnes qui souhaitaient la disparition de M. Prigogine, elle est très très longue.
Merci en tout cas pour cette mise en perspective de ces cartes qui sont quand même quelque peu rebattues après à la fois cette tentative de putsch et ici cette disparition en plein vol de Evgeny Prigogine et une grosse partie du board du groupe Wagner. Merci Vyacheslav Avgutsky.
Merci beaucoup.